Moi, j'ai une fille qui est sur le front en ce moment, il y a 19 ans. Qu'on a en face de nous, c'est une telle haine, c'est une telle barbarie. On se dit, c'est mon bébé qui est face à ça.
Myriam Azoghi Alvax habite à Ra'anana, dans une petite ville au nord de Tel Aviv. Elle vit en Israël depuis 7 ans. Elle est mère de 3 filles.
On dit toujours que le boulot de mère, c'est un des boulots les plus difficiles. Et même quand on a des vrais jobs en plus de celui-là, quelles que soient les responsabilités, quel que soit le niveau de responsabilité qu'on ait, la job de mère, c'est vraiment une des plus dures. Mais alors là, c'est très dur parce qu'on se pose plein de questions, sans arrêt, quoi, non-stop, sa responsabilité sur puis on s'angoisse beaucoup. Alors quand on a une fille qui est au front, évidemment, moi je dors pas beaucoup, dors pas beaucoup. Heureusement qu'on est à la radio d'ailleurs, on a du mal à tenir un semblant de bonne tête. On s'inquiète et pour des choses qui sont évidentes, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'habiter en Israël pour comprendre que quand on est une mère et qu'on a une fille qui est au front, on s'inquiète pour sa vie. Déjà, c'est la première des choses. Et puis, on s'inquiète aussi sur sa santé aussi, sur son bien-être, sur sa santé mentale. Et pas seulement ma fille soldat, mais mes deux autres filles aussi. Tous les jours, là aujourd'hui, je suis restée. J'ai eu la chance d'aller déposer des choses, donc j'ai pu la voir un petit moment. Et comme j'ai dit à ma petite, j'ai dit après, je pense que ça lui a fait du bien parce qu'elle avait retrouvé un petit peu de sourire, parce que lui redonner un peu de lumière, parce que c'est noir en ce moment, c'est noir. Et elle encore plus puisqu'elle est vraiment dans la guerre. Moi, je suis à l'intérieur.
Maman de 3 filles, elle essaye de protéger ses enfants des réseaux sociaux.
C'est très très dur, cette angoisse. Et puis vous savez, il y a aussi un élément qui est supérieur, qui s'ajoute à tout ça, c'est que c'est le niveau de haine qu'on ressent. Et on est dans un monde où, voilà, les enfants israéliens, ils sont pas différents des enfants partout. Enfin, en plus, moi, les miennes, elles sont nées au Canada, c'est aussi des Canadiennes. Ils sont tous sur leurs réseaux sociaux, ils sont sur leur téléphone non-stop. Donc ils reçoivent les messages de l'extérieur. Et ils voient ce qui est en train de se dérouler à l'extérieur, cette haine brute. Il n'y a pas d'autre terme de traiter les Juifs, les Israéliens d'assassins, alors qu'on n'est pas encore remis de. On est encore en train d'identifier les corps. Encore aujourd'hui, ce matin, j'ai un ami, c'est ce dont je parlais aujourd'hui, j'ai un ami qui était à. Qui a accompagné, qui était à la base militaire où ils identifient les corps et les morceaux de corps. Parce qu'il y a encore des centaines de corps qui n'ont pas été identifiés.
Olivier Marceau se situe à Beersheva, qui est la plus grosse ville dans le sud d'Israël, à 40 km de la bande de Gaza. Il est arrivé en Israël en août 2022. Il raconte ce qu'il a vécu le 7 octobre dernier.
Il y a eu une alerte au missile ici dans le sud d'Israël à 6h30 du matin. J'ai été réveillé par une très forte alerte au missile. Puis étant donné la courte distance de 40 km, j'ai 1 minute, soit 60 secondes pour aller trouver refuge dans un bunker à l'étage inférieur. Donc, en entendant cette alerte au missile, je me précipite hors du lit, je mets mes shorts et mon t-shirt et je me précipite à l'étage inférieur. Je peux vous dire que pendant 4, 5, voire 6 heures qui ont suivi, il y avait des alertes au missile de façon intermittente. Donc, je dois trouver refuge dans un bunker à chaque fois. Je peux vous dire qu'il y a un missile qui a frappé un appartement à 2 km d'ici. J'étais en mesure de le voir de la fenêtre d'appartement où je me situe. Il y avait un gros nuage de fumée noire que je pouvais voir à l'horizon. Puis, en même temps que je regardais par cette fenêtre-là, je pouvais voir des missiles qui complètement tiré au-dessus de ma tête, je voyais les missiles se faire intercepter par le dôme de fer israélien. Donc, c'est quelque chose de assez fou, vraiment, de vivre ça en temps réel.
Olivier souligne qu'émotionnellement, cette guerre est très difficile.
Ça affecte les gens personnellement. Ma copine, c'est celle que je vois à tous les jours. Donc, je le vois personnellement. Elle a certains, comme je peux permettre l'expression, elle a des breakdowns. Genre, elle pleure. Ça l'affecte sa famille. Sa famille est en danger. Et moi, je suis ici avec elle. Elle a souci de moi aussi. Je peux aussi dire que, par exemple, comme dès que le conflit est éclaté, ses trois collègues de travail qui ont été tués, il y en a un. Elle était à son mariage il y a 2 ans. Il a été tué à l'âge de 28 ans par le Hamas. Il laisse derrière lui un jeune enfant d'1 an et une femme.
Les deux me décrivent leur quotidien d'aujourd'hui.
Quand même stressé, on est angoissé, on ne sait pas quand les alertes aux missiles vont arriver, on reste stressé, on est en manque d'informations, on ne sait pas ce qui va arriver. Je peux aussi vous dire qu'aujourd'hui, il y a eu 2 alertes aux missiles déjà aujourd'hui, puis 5h30 de l'après-midi. Donc, ça nous impacte, mais ça nous impacte notre vie. On est stressé quand même, mais en même temps, on a quand même des tâches à faire. Moi, je reste auxiliaire juridique à la Cour suprême. Je dois faire mes fonctions au quotidien. Ça reste difficile, mais il faut quand même essayer de vivre le plus possible à l'intérieur, de la maison. Mais on évite les déplacements non nécessaires. Donc, un peu style COVID, quoi. Quand on a besoin d'aller faire des courses, on va faire les courses. Les épiceries sont assez bondées. Initialement, la semaine dernière, le gouvernement israélien nous a dit de faire des provisions pour quelques jours au cas où qu'on ne pouvait pas avoir accès au centre alimentaire ou s'il y avait une perte, une interruption d'électricité. Donc, quand on est allé à l'épicerie, c'était un zoo complètement. Les épiceries étaient bondées. Les gens achetaient des denrées non périssables, des bouteilles d'eau, des lampes de poche, des batteries, tout ça. Donc, je peux dire que ça, c'est un peu changé. Il y a beaucoup de magasins et de commerces qui sont fermés. Donc, il y a une limitation au niveau de ce qu'on peut faire comme activité. Les centres d'achat sont fermés, les cinémas sont fermés. Donc, ça affecte les gens. Les gens évitent d'aller dehors dans les parcs, jouer au soccer, par exemple, s'entraîner dehors, aller courir. Donc, les gens peut-être vont faire une petite marche rapidement dehors, mais sans plus.
J'avoue qu'en ce moment, j'ai de plus en plus de mal à expliquer, à définir. C'est pas une vie, c'est hors du temps, on est en suspens. Mon quotidien, c'est de savoir, on est sur des tonnes et des tonnes de groupes d'entraide sur WhatsApp. Donc le matin, je regarde qu'est-ce qui a besoin, de quoi et où. Alors, évidemment, dans ma ville, hein, parce qu'on ne s'aventure pas trop non plus à aller se balader. Loin, enfin ça dépend quand on doit aller déposer des choses, des cartons dans le sud ou dans le nord. Bon, là on fait un gros trajet, et on vient pas tout seul, enfin, c'est un vrai truc.
Myriam et Olivier expliquent leur raison de rester en Israël malgré la guerre.
Ma copine est ici, sa famille est ici, mon travail est ici, son boulot est ici. Donc, c'est la raison pour laquelle je reste en Israël. Si c'était vous, je pense que vous ferez pareil. Si votre famille était là, votre copine, votre conjoint, peu importe votre travail, vous déciderez pareil.
On m'a beaucoup posé cette question. D'abord parce que j'ai ma grande qui est là. Donc déjà, pour commencer, peu importe ce que j'aurais pu penser, de toute façon, je ne sors pas du territoire. Je ne sors carrément pas du territoire. Ça, c'est une évidence. Donc ça, c'est déjà une première raison qui est rédhibitoire, quoi. Mais si on va plus loin dans la réflexion, juste pour aller dans votre question, qui est une question difficile, hein. Mais on est ici chez nous. On appartient à cette terre, on appartient à ce peuple, et on est à la maison. Et c'est un petit peu comme si on vous disait, ben écoutez, voilà, il y a une bande de barbares qui est venue chez vous, dans votre maison, votre chalet dans le nord, et ils ont tout saccagé, et vous allez tout laisser et vous partez. On leur donnera certainement pas cette Déjà, on leur donnera certainement pas cette victoire.
C'était un reportage de Marie Illès pour IGL à Ottawa.